Bon, alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un nouvel exposé, Florence Pellegrini, qui est agrégée, docteur sur Flaubert, une belle thèse sur Bouvard et Pécuchet, et qui travaille actuellement en détachement au CIEP, et qui a obtenu un poste de Prague à l'université de Montpellier, donc ce sera à partir de la rentrée. Et qui va, c'est elle qui a introduit l'idée de parler de Patrick Ourednik et Anna, un livre qu'au départ je ne connaissais pas, qu'elle m'a fait connaître et que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez que cette année, le séminaire Flaubert sur Flaubert et la bêtise s'intéresse en grande partie aux réécritures contemporaines de Flaubert et en particulier de Bouvard et Pécuchet. Et il me semble que l'ouvrage de Patrick Ourednik entre dans cette problématique de la réécriture flaubertienne. C'est à ce titre que Florence va nous parler de Européana de Patrick Ourednik, brève histoire critique du XXe siècle en farce. Voilà. Eh bien, à toi.
Merci. Alors, je vais parler d'abord et essentiellement d'Européana, qui est le premier ouvrage de Patrick Ourednik traduit en français dont j'ai eu connaissance. Et puis, je dirai quelques mots aussi d'Instant propice 1855, qui est le second à avoir été traduit en français et qui me semble développer des problématiques comparables, même si les moyens mis en œuvre sont des moyens différents. Dans la littérature contemporaine héritière de Flaubert, pas ouvertement héritière, tant il fut tout un temps récent où l'on ne reconnaissait guère de dette, un temps qui voulait en finir avec la généalogie, avec la logique de la succession, Tiphaine Samoyo trace des lignes de partage et distingue trois tendances. La ligne Bouvard et Pécuchet, qui à la suite de Queneau et Pérec est à la fois celle de l'encyclopédie et de la bêtise, celle du savoir et de l'idiotie. La ligne éducation sentimentale, qui est tracée par la mélancolie des paquebots et un rapport déçu à l'histoire, qui engendre des récits de l'éloignement du fer, aux héros désorientés, peu sûrs de leur identité, voire menacés par la dissolution, des Frédéric qui auraient intériorisé l'histoire à venir et se seraient radicalisés avec elle et en elle. La ligne Madame Bovary, enfin, qui se serait caractérisée par une tendance de l'écriture à l'extase et à l'engloutissement. C'est sans doute à la première ligne, à la suite de Queneau et Pérec, qu'il revendique comme influence directe, qu'il faudrait rattacher le travail de Patrick Ourednik. De Année 24, son premier récit de fiction publié en 1995, directement inspiré par Je me souviens à Ad Acta, classé sans suite, qui sera la traduction française, son dernier roman, sorte de tentative d'épuisement d'un lieu pragois, parodique, faux polar et vrai satire dont le protagoniste, Victor Dick, est un veuf collectionneur de coléoptères qui ne s'exprime que par fausses citations bibliques, les textes de Patrick Ourednik sont tous marqués par la fascination des listes et la manie de l'accumulation, qui se fixe singulièrement sur les discours rapportés. Collection de perles, tour à tour ineptes, cocasses, inquiétantes, énigmatiques, ou tout ceci à la fois, que le texte empile sans hiérarchie ni différenciation, Européana et Instant propice 1855 se situent quelque part entre Candide, pour la fausse naïveté du ton et l'ironie qui perce sous l'ingénuité, et le dictionnaire des idées reçues, auquel il ne manque pas d'ajouter quelques articles. Il se peut que j'aie une oreille sensible pour les stéréotypes et la langue vide de sens, et que je sois capable de reproduire cette langue en tenant compte du fait que cette langue vide de sens n'est jamais tout à fait vide, car il reste toujours des résidus d'idées et d'idéologies se rapportant à des choses qui, au début, pouvaient être vivantes. Ainsi parle de lui-même Ourednik dans un entretien accordé à Radio Prague en mars 2002. De fait, préférentiellement dans Européana où la prolifération des discours du et sur le XXe siècle le dispute à la construction factuelle d'une histoire en mode mineur, mais également dans Instant Populis qui narre l'échec d'une utopie sociétale, et en fait le récit est inspiré d'une expérience réelle, celle de la communauté libertaire de la Cécilia, fondée en 1890 au Brésil par l'anarchiste italien Giovanni Rossi, le travail d'Ourednik fait saillir le lieu commun, seul lieu où, affirme-t-il, les gens puissent se retrouver en commun. Fait saillir le lieu commun pour mieux le combattre, non pas frontalement sous risque d'échec, mais insidieusement, de façon à y introduire des failles qui produiront son effondrement temporaire. Car le stéréotype est sournois, si vous voulez le combattre. Il faut être plus sournois que lui. À l'instar d'un régime totalitaire, le stéréotype ne peut être attaqué frontalement. Il s'agit d'abord d'y introduire des failles, patiemment, obstinément. Et puis, un beau jour, il s'écroule. Suit alors une brève période de liberté, c'est-à-dire d'anarchie, quelques jours, quelques semaines. Puis il est remplacé par un autre, et vous repartez à zéro, si vous en avez encore la force, si vous n'êtes pas trop dégoûté. Sisyphe, le dernier héros absurde. Et là, je cite encore Patrick Ourednik. Il y a du Bouvard et Pécuchet dans l'entreprise de Patrick Ourednik, tant dans sa façon de travailler, marquée par une forme d'encyclopédisme, la passion des catalogues et des nomenclatures, et j'en dirai encore quelques mots en fin d'exposé, que dans cette façon de restituer et d'empiler les discours constitués d'une époque. Européana, ce sont des opinions diffuses et nivelées dans le désordre de l'énumération, comme dans un muséum croûtéum, où le siècle passé et ses bouleversements se figeraient en une compression délirante de fragments de la bibliothèque mondiale, rayon histoire, ou politique, ou psychanalyse, ou appareil électroménager, c'est selon. Des historiens qui disent, et qui ne disent pas tous la même chose, aux anthropologues et aux philosophes, en passant par les jeunes gens, les gens tout court, on ne sait qui, le texte fait entendre une multitude de voix dont la multiplicité s'efface dans l'indistinction formelle, stylistiquement homogène. On remarque une énonciation distanciée ou dépersonnalisée, l'utilisation minimale de la ponctuation, aucune virgule, aucun point-virgule, aucune ponctuation expressive. Parataxe et clausule non conclusive par le « et » ou le « etc. ». Les énoncés rapportent sur le mode constatif, espoir et croyance d'une époque, peur et jugement, tentatives explicatives et dogmes de tout craint. Une remarque liminaire équivaudra pour toutes les analyses formelles que je pourrais faire par la suite. Remarque liminaire et précaution méthodologique, bien sûr. Le texte d'Europeana sur lequel je m'appuie est la traduction française de l'ouvrage initialement publié en langue tchèque. Patrick Ourednik est né à Prague d'une mère française et d'un père tchèque. Il écrit en tchèque. Il précise être né dans une famille bilingue, avec des parents se parlant entre eux dans deux langues, sans pour autant croire chez un individu au bilinguisme, dans le sens propre du terme, la maîtrise parfaite, l'appropriation parfaite des deux langues. Il précise. Le bilinguisme est un projet théorique. Pour qu'il devienne réalité, il faudrait rendre possible non seulement la pratique quotidienne de deux langues, ce qui est réalisable, mais également la pratique quotidienne de deux contextes culturels, de deux histoires, de deux vécus, autrement dit la pratique quotidienne de tous les non-dits de l'une et de l'autre, en plus d'un redoublement d'une même situation émotionnelle. Mais s'il est possible, peut-être, idéalement, de vivre deux fois et dans deux langues différentes l'attente fébrile des cadeaux de Noël, comment voulez-vous revivre dans une autre langue le premier amour, le premier conflit d'adolescent, la première trahison, la première humiliation, la première haine, la mort de votre chien, votre premier cahier d'écolier? C'est à ces occasions-là, je crois, que se forment, une fois pour toutes, les strates d'un langage. Ourednik écrit donc en langue tchèque, mais Patrick Ourednik est également traducteur, traducteur en tchèque de Queneau, dont il a par ailleurs préfacé l'édition tchèque des Enfants du Limon et par lequel il dit être revenu à Flaubert, et à Bouvard et Pécuchet en particulier, traducteur de Beckett, de Jarry, de Claude Simon ou de Boris Vian, traducteur en français de Vladimir Holan ou de Yann Zabrana. S'il ne traduit pas lui-même ses textes, il collabore étroitement à la traduction, assez activement, dit-il, et l'on appréciera l'euphémisme, 18 versions différentes pour Europeana, dans une recherche du mot juste, de l'équivalence la plus exacte. 18 versions pour Europeana, une douzaine pour la traduction en cours de Classis sans suite. Et la pioche flaubertienne n'est pas loin. La syntaxe si particulière de l'édition française est donc le fruit d'un travail progressif, concerté, entre Marianne Cannavaggio, la traductrice, et Patrick Ourednik. La disparition des virgules, en particulier, relève d'une tentative de restituer, je cite, « la syntaxe extrêmement lâche de la langue tchèque, où la virgule a un rôle moins stylistique que normatif, et où la période, plus ample, permet d'enchaîner presque à l'envi les propositions les unes à la suite des autres. » La syntaxe plus resserrée du français a conduit, d'une part, à la suppression des virgules, d'autre part à l'allongement de la phrase pour tenter de rendre compte de la continuité du flux verbal qui est la caractéristique majeure du texte. La présence massive des conjonctions et le fait des deux langues. Quant au « et » qui articule dans le texte français les différents termes de l'énumération, mais que l'on retrouve également en fin de période ou en ouverture de phrase, il participe d'une relance rythmique et d'un redéploiement discursif qui est parfois une réorientation. Selon les cas, La coordination empile du même ou de l'hétérogène, extrait de l'homogène à des fins de mise en relief, c'est le cas de la coordination emphatisante, ou s'ouvre à l'altérité pour mieux la congédier. Je fais ici référence à la description du fonctionnement de « et aussi de « mais » ou « ni » que donne Claire Badiou-Montferrand dans son article « Coordonnée, qu'est-ce qu'ajouter ?» et dont j'ai montré par ailleurs combien elle pouvait être opérante pour Bouvard et Pécuchet. Je vais citer un long passage du texte d'Ourednik en essayant de le lire correctement puisque l'absence de ponctuation ne rend pas la tâche aisée. On a dit de la Première Guerre mondiale que les gens y tombaient comme des graines, et les communistes russes ont calculé combien un kilomètre de cadavres pouvait donner d'engrais, et combien ils économiseraient en coûteux engrais étrangers s'ils se servaient des cadavres de traîtres et des criminels. Et les Anglais inventèrent les chars d'assaut, et les Allemands un gaz, qu'on a appelé hyperite, parce qu'ils l'auraient utilisé pour la première fois près de la ville d'Ypres, mais on a dit plus tard que ce n'était pas vrai. Certains historiens ont dit plus tard que le XXe siècle n'avait en fait commencé qu'en 1914, quand la guerre avait éclaté, parce que c'était la première guerre de l'histoire où il y avait autant de pays engagés et autant de morts, et où les dirigeables et les aéroplanes bombardaient l'arrière et les villes et les populations civiles, et où les sous-marins coulaient les bateaux et les canons tiraient par-dessus les lignes à 12 km de distance. Mais d'autres historiens disaient qu'en réalité, le XXe siècle avait commencé plus tôt, lorsqu'avait éclaté la révolution industrielle qui avait bouleversé le monde traditionnel avec l'invention des locomotives et des bateaux à vapeur. À la fin du XIXe siècle, les gens des villes attendaient le siècle nouveau avec impatience parce qu'ils avaient le sentiment que le XIXe siècle avait tracé les voies sur lesquelles l'humanité allait s'engager résolument et que dans le futur, tout le monde pourrait téléphoner et voyager sur des bateaux à vapeur et se déplacer en métropolitain et prendre des escaliers roulants munis de rampes mobiles et se chauffer avec du charbon de qualité et prendre des bains une fois par semaine et communiquer ses pensées et ses désirs à travers l'espace et à la vitesse de l'éclair grâce au télégraphe électromagnétique et à la télégraphie sans fil. À la fin du XXe siècle, les gens se demandaient s'ils devaient fêter le début du nouveau millénaire en 2000 ou seulement en 2001. Et certains disaient que la fin du monde était pour bientôt, tandis que d'autres disaient qu'elle était pour plus tard. Et les anthropologues disaient que l'idée de fin du monde était importante pour les individus et la collectivité, parce qu'elle permettait d'évacuer la peur et l'agressivité et d'accepter sa propre mort. Et les psychologues disaient qu'il importait que l'individu décharge son agressivité et que le mieux était de pratiquer la compétition sportive, parce qu'elle permettait de décharger son agressivité et faisait beaucoup moins de morts que la guerre. Les causalités implacables s'enchaînent, le texte est saturé de parce que, vaine justification que l'effet de masse renverse. Europeana se donne ainsi à lire comme un catalogue de lieux communs historiques, non pas faits historiques, mais discours tenus sur l'histoire, dont on aurait effacé à la fois l'origine et la hiérarchie. Discours réduits et répétés, bêtes dans leur fixité et leur concision simplificatrice, qui se pressent et s'accumulent, et dont les apostilles font saillir, forme de concrétion, à l'usage des lecteurs débutants, le dérisoire et le grotesque. La nature est perverse, l'homme est en fait un singe. Vous avez un exemple des apostilles dans l'exemplier que je vous ai distribué. J'ai reproduit le début en fait, et la fin d'Europeana, et vous avez les apostilles en regard du texte chaque fois. Chaque page présente, en effet, une, parfois deux indications marginales, placées en regard du texte et avec lequel elles entrent en rapport thématique. Ces indications fonctionnent alors, ou prétendent fonctionner, comme un vade-mecum pour la lecture, le modèle éditorial retenu étant celui du manuel de vulgarisation scientifique. Intertitre pédagogique et parodique, ou ironico-pédagogique, les indications marginales concentrent l'essentiel du cliché qu'à la fois elles désignent et rappellent. Concrétion, car il s'agit déjà, dans le style formulaire ramassé du cliché, d'une solidification et d'une désignation, un peu à la façon dont Merleau-Ponty parle de la perception des couleurs, et du rouge et du vert comme des concrétions de paix et de violence. Concrétion de concrétion, car il s'agirait, dans ces syntagmes figés au statut variable, car il y a plusieurs catégories dans ces excroissances discursives, d'un cliché réduit à son noyau dur. Une concrétion, en termes de discours, pourrait être cette formule minimale qui résiste et transite. Un résidu de propos tenus, entendus, répétés, circulant partout et dont on n'aurait qu'à évoquer la forme la plus réduite pour faire ressurgir le bataillon d'idées reçues associées. Alors j'ai tenté une catégorisation, et je vais vous donner quelques exemples de listes à l'intérieur de ces apostilles. Première catégorie, énoncé thématique avec la construction suivante, article défini, substantif, complément de détermination. Je vous donne dans le désordre. Le positivisme, la fin du monde, l'homme nouveau, la disparition des valeurs, le sens de la collectivité, la qualité de la vie, le règne de la paix, l'imaginaire social, l'identité sociale, la fin de l'histoire. Deuxième catégorie, énoncié thématique toujours, mais construction, substantif, complément de détermination, sans article. Marche militaire, réalité virtuelle, profond désaccord, délivrance de la matière, éléments asociaux, citoyens inadaptables, mise en garde des générations, grande roue, conservation de la mémoire, problème d'érection, crise morale, langue universelle, conceptions étriquées, trous noirs, organisation de la mémoire. Énoncés proverbiaux, au présent gnomique, le monde court à sa perte, l'ordre est né du chaos, les femmes sont des êtres humains, le monde est corrompu, Dieu existe, les stérilisations ne servent à rien, la jeunesse est stupide, la mémoire n'est pas constitutive, le fascisme est universel, l'art appartient à tous. Enfin, la dernière catégorie, ce que j'ai appelé les énoncés actionnels qui sont construits autour d'un noyau verbal, à l'infinitif ou pas, mais autour d'un noyau verbal. Tirer les leçons du passé, en avant, comment optimiser l'homme, préserver l'intégrité du noyau, interpeller les jeunes spectateurs, apprendre à penser autrement, revenir aux racines, vivre en harmonie, se tourner vers l'avenir. À ces occurrences, ce que caractérise un haut degré de généralisation et d'abstraction, il faut ajouter des variantes plus prosaïques et contextualisées, qui fonctionnent sur le même modèle. Ainsi, au catalogue des thématiques reçues, on adjoindra la grosse Berthe, l'invention de la contraception, l'invention du soutien-gorge, le niveau des nappes phréatiques, l'utilisation des gaz de combat, le soldat inconnu, la veuve joyeuse, la race aryenne, les poupées Azizi, la consommation du tabac à priser, le millénium, les conjurés, le télégraphe, le sperme de qualité supérieure. Et les aphorismes aux présents de vérité générale, type le travail rend libre, ce double dénoncé construit sur le même schéma, mais au temps du passé. Énoncé plus ou moins abscons, plus ou moins hermétique, selon les cas et la clarté de l'allusion qu'il recèle. Je cite, « Les Anglais inventèrent les chars, les Allemands inventèrent le gaz, les hommes étaient au front, ceux qui connaissaient le crawl. Les médecins éclairaient la population, le vent échevelait les épis, les avis divergeaient, les écuries furent détruites, les Américains voulaient destituer leur président, l'interprète était en permission. » Il y a au moins trois façons de lire Européana, souligne Bernard Quirini dans une critique parue en 2004 lors de la publication de la traduction française. Je poursuis la citation. La première, qui nécessite quelques minutes seulement, consiste à ne lire que les petites phrases placées en marge sur le bord de la page. Tirées du texte lui-même, et j'ajouterai pas tout à fait puisque les apostilles sont parfois une réduction synthétique et lapidaire du texte, vis-à-vis duquel elles jouent le rôle de repère parodique. Elle forme une sorte de faux manuel scientifique à la poésie naïve et loufoque, comme un dictionnaire des lieux communs historiques dont on aurait effacé les définitions. La deuxième, plus sérieuse, consiste à lire le texte lui-même, un texte dont Ourevnik a voulu faire une brève histoire du XXe siècle, ce qui, en 151 pages de petit format, tient à première vue de l'exploit. L'idée d'Ourevnik est cependant géniale. Pour tracer la carte de ce siècle et en déterminer les moments les plus importants, il a simplement laissé venir à lui, en vrac, des centaines de faits historiques de toute nature, relevant de l'anecdote négligeable pour les uns, de la statistique cruciale pour les autres. Mêlés et ressassés, dans un texte litanique et hétéroclite, ils formeront des grumeaux dont les plus gros correspondront aux moments clés du XXe siècle occidental, et européen en particulier. C'est ainsi que Patrick Ourevnik évoque, dans un style descriptif où les « et » se multiplient à l'envi, mettant ainsi sur un pied d'égalité dans une seule et même phrase cinq ou six faits et n'ayant à peu près rien à voir les uns avec les autres, l'émancipation de la femme et l'invention de l'escalator, le bug du millénaire et l'attentat de Sarajevo, l'électricité et le soutien-gorge, Buchenwald et le positivisme, le colima et l'éducation des enfants, la Croix-Rouge et le messianisme bolchevique. La troisième manière consiste bien sûr à lire en même temps le texte et ses annotations en marge pour profiter de leurs effets cumulés. Rire garanti, malaise probable. Le rire d'un côté, parce que dans ce ressassement perpétuel qui voit revenir à intervalles rapprochés, les mêmes formules qui se nuancent d'une infime variation, il y a le jusqu'au boutisme de l'idée fixe que n'aurait renié ni Bouvard ni Pécuchet. Pensée bête et sans nuance, qui balaye tout sur son passage et s'attache à un objet exclusif, au détriment de tout autre, qu'il s'agisse de la métaphysique, de phallus sceptique chez Flaubert, je cite, « La métaphysique revenait, elle revenait à propos de la pluie ou du soleil, d'un gravier dans leurs souliers, d'une fleur sur le gazon, à propos de tout. » Encore une citation, « Et, pour Bouvard et Pécuchet, tout devint phallus. » C'est l'épisode de l'archéologie. Du millénium et de l'émancipation féminine chez Ourevnik. Effet de reprise et de symétrie, participe d'un comique de répétition où la progression s'effondre dans l'identité. Ainsi de ce parcours rapide de l'histoire du cinéma de l'après-guerre ou de l'histoire de l'érotisme au choix. Dans les années 50, les héros de films s'accouplaient surtout dans les champs de blé, parce que les champs de blé respiraient la jeunesse et la vie nouvelle qui attendaient les jeunes héros, et le vent échevelait les épis. Et en apostille, on trouve le vent échevelait les épis. Et le soleil se couchait lentement et les seins des femmes se gonflaient. Dans les années 60, les héros de films s'accouplaient surtout dans le ressac au bord de l'océan, parce que c'était romantique et le sable leur collait à la peau, et on voyait leur derrière et au-dessus de la mer une brume brasillée dans le soleil couchant. Dans les années 60, sont aussi apparus les premiers films pornographiques dans lesquels on s'accouplait presque tout le temps et en divers lieux. Dans les années 70, les héros s'accouplaient surtout dans des automobiles, parce que c'était original et que la vie s'accélérait. Et en apostille, on a la vie s'accélère. Et les jeunes spectateurs, n'ayant pas encore d'automobile, pouvaient s'imaginer ce qui les attendait dans la vie. De plus en plus souvent, les hommes se retrouvaient dessous et les femmes dessus, parce qu'entre-temps, elles s'étaient émancipées. Et dans les années 80, est apparu le sexe au téléphone et les hommes appelaient divers numéros où des femmes leur disaient dans l'écouteur « Je sens que je mouille » ou « Enfonce-la moi bien profond » ou « Tu me fais goûter, dis », etc. Rire d'un côté, mais malaise également, dans une forme particulière de ce grotesque triste dont Michel Crouzet a caractérisé l'écriture flaubertienne, puisque les faits majeurs de l'histoire du siècle subissent la même réduction dévastatrice, depuis les atrocités des deux conflits mondiaux jusqu'aux abjections des totalitarismes et autres génocides. Dans une forme d'irrespect, qui a valu à son auteur nombre de critiques, une certaine stylisation qui serait inconvenante pour traiter de tels sujets, Européana traite en aplat la grande et la petite histoire, le tragique et l'anecdotique, l'infime et l'innommable. De ce bric-à-brac surréaliste émerge inexorablement une poignée de temps forts qui, par l'effet de la répétition, finissent par prendre leur véritable importance dans le magma indifférencié des faits. Ce sont les deux guerres mondiales, les totalitarismes et leurs carnages de masse, les idéologies, scientisme, communisme, fascisme, nazisme, humanisme, pour l'essentiel. Les synthèses radicales auxquelles se livre l'auteur pour faire tenir en une phrase l'histoire du vote des femmes, la conception nazie de l'art dégénéré ou les débats sur la discrimination positive entraînent inévitablement des raccourcis hilarants et également angoissants. En abordant tout ce qui lui tombe sous la main avec ce même décalage naïf et ironique, Ourednik simplifie l'histoire jusqu'à la rendre dérisoire, se moquant des idées reçues en les accumulant au kilomètre. C'est tout le rapport d'une société à son histoire qu'il interroge finalement dans ce minuscule livre monstre aux effets dévastateurs, la manière dont elle interprète le passé, ici en ne l'interprétant jamais, l'importance qu'elle donne aux événements en fonction de sa grille de lecture et de ses priorités imaginaires, ici en ne donnant de l'importance à rien. C'est la logique implacable du pignouf, dont Philippe Dufour a décrit les mécanismes, une logique du tout se vaut, ou plutôt, car chaque élément est apporté par l'effet de liste, d'un rien ne vaut. De l'emballement chaotique de l'énumération à la fausse clôture du etc., qui sous couvert d'exhaustivité pointe son inaptitude à tout embrasser, le texte d'Européana concentre, c'est-à-dire à la fois rassemble et réduit, les propos et les pensées communs. Lorsque l'on interroge Patrick Ourednik sur l'écriture de son texte, il parle du besoin de précipiter, que j'entendrai comme verbe, nécessité d'accélération et de heurts violents, mais également comme substantif, au sens chimique du terme, ce corps insoluble formé par réaction entre deux ou plusieurs substances en solution, ou par action physique sur une substance en solution. Ce sont les grumeaux dont parle Bernard Quirini, et qui forment un conglomérat déstructuré de lieux communs, tour à tour, racistes, sexiste, passéiste, progressiste, millénariste, scientiste, tous les istes et les ismes étant à un moment ou à un autre convoqués, uniformément catégoriques et inquiétants. Mis bout à bout, ils égrènent une mélopée monocorde dont on ne s'extrait jamais que partiellement, sporadiquement. La mise à distance totale est impossible, car il y a toujours dans la masse des propos restitués ce bref moment où l'on reconnaît, sinon une phrase que l'on aurait pu prononcer, au moins une chapelle que l'on a pu fréquenter. L'ensemble serait formidable comme plomb. Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n'y eût pas un mot de mon cru, et qu'une fois que l'on l'aurait lu, on n'osa plus parler de peur de dire naturellement une des phrases qui s'y trouvent. Le programme du dictionnaire des idées reçues tel que le présente Flaubert à Louis Scollet dans une lettre de décembre 1852 peut, jusqu'à un certain point, convenir à Européana. Juxtaposition d'éléments hétéroclites qui restituent un air du temps, relatif et transitoire, avant que d'être emporté par une nouvelle vague insinuante de poncifs accolés, le texte découle les stéréotypes, en découle avec les stéréotypes, en les assemblant, le montage fonctionnant alors comme procédure démystificatrice. La brève histoire du XXe siècle qui se dessine alors est celle d'une collection de préjugés successifs, permutables, réversibles, et dont la multiplicité défait la vérité. Et les Espagnols dansaient le flamenco, et les Tziganes lançaient des regards noirs, et les Russes étaient arrogants, et les Suédois pragmatiques, et les Juifs rusés, et les Français insouciants, et les Anglais prétentieux, et les Portugais attardés. Mais l'essor de la société de consommation et des moyens de communication a peu à peu uniformisé la vie des gens en Europe, et certains sociologues et historiens ont estimé qu'on ne pouvait plus penser en termes de nationalité. Et ils disaient que le tressaillant de la société occidentale développée était le cosmopolitisme, et que les Allemands, ou les Roumains, ou les Suédois, etc., n'existaient pas, et que ce n'était que des autoprojections de préjugés et de stéréotypes sociaux. Mais d'autres sociologues ne partageaient pas cet avis et disaient que l'essor de la société de consommation avait fait perdre aux gens la plupart de leurs repères et que la communauté nationale était devenue plus importante et que les stéréotypes étaient indispensables à la conservation de la mémoire collective et historique, sans laquelle la société occidentale perdrait son unité culturelle, car l'unité ne pouvait pas ne pas être hétérogène. Si Patrick Orennik, lors de notre rencontre pour préparer cette intervention, n'a pas souhaité que j'enregistre notre conversation, il avoue en effet une certaine méfiance envers l'oralité et le sentiment d'être toujours un peu pris de court face aux questions, il a bien voulu me transmettre un texte qu'il avait rédigé lors de sa participation à une soirée littéraire qui lui était consacrée, soirée organisée en mai 2009 par la représentation en France de la Commission européenne, et que je vais vous lire. Orennik y expose à la fois sa conception de la littérature et de ce que devrait être sa fonction, la spécificité de la littérature en regard de l'histoire, définissant ainsi, corrélativement, l'objet de sa propre écriture. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, dans celle des autres comme dans la mienne, c'est ce qu'on appelle d'habitude la vérité d'une époque. Ce terme est bien entendu extrêmement vague, car dans toute époque existent et coexistent des vérités différentes, des vérités multiples. Le jeu consiste alors à essayer de rassembler, d'embrasser cette multitude, ce pluriel des choses. Un auteur a à sa disposition différents moyens, le plus fréquent étant la confrontation des destins, des vies humaines dans l'optique de la micro-histoire. Quant à moi, j'essaie, dans certains de mes livres du moins, d'appliquer un principe un peu différent, en partant de la prémisse qu'il est possible de prendre comme synonyme de la vérité d'une époque, la langue de cette époque, autrement dit de s'emparer d'un certain nombre de tics langagiers, de stéréotypes et de lieux communs, et de faire en sorte qu'ils agissent et qu'ils se confrontent au même titre que les personnages d'un récit traditionnel. Tout comme les historiens, les auteurs travaillent avec des écrits, chroniques, correspondances, journaux d'époque, etc. Ces écrits, on peut les aborder de deux manières. Soit, c'est ce que font les historiens, on peut y chercher avant tout, pas forcément exclusivement, mais en priorité, l'information sur l'événement lui-même. Que s'est-il passé? Qu'est-il advenu? Ou alors, nous pouvons y chercher en priorité la façon dont l'événement est traité. Autrement dit, il ne s'agit plus dans cette perspective de savoir qui a gagné la bataille de Waterloo, mais de voir comment les chroniqueurs l'ont décrite. La vérité de l'époque est dans la description, pas dans l'événement lui-même. Dans la réaction, pas dans l'action. Les destins humains suivent la même trajectoire. Nous nous constituons à travers l'interprétation que nous donnons de tel ou tel événement. Tout cela est en réalité assez banal, tout comme les stéréotypes qui nous permettent d'exister. Personnellement, j'ai tendance à croire que la vie humaine est en soi d'une banalité affligeante, quelles que soient par ailleurs toutes les horreurs qui peuvent nous arriver dans l'espace d'une vie. Mais justement, exprimer la banalité en littérature est assez délicat. Très paradoxalement, la banalité est invraisemblable tant que nous ne la mettons pas en forme. C'est là qu'intervient aussi bien l'historiographie que la littérature. Dans les deux cas, le contenu, synonyme supposé de la réalité, n'a aucune existence. Le contenu est un tas de sable virtuel, et pour en tirer une quelconque réalité, nous devons d'abord le tasser dans un seau, l'arroser de l'eau et en faire un pâté. C'est toujours le même tas de sable, mais entre-temps, il est devenu, selon les cas, manuel d'histoire ou œuvre littéraire. Dans les deux cas, on fait appel, consciemment ou pas, à des stéréotypes, à des lieux communs, parce que justement, le lieu commun est le seul lieu où l'on peut se retrouver en commun. Les destins humains ont beau être banals, ils ne sont pas interchangeables. Le problème de la littérature, c'est qu'elle consiste à englober les choses dans une structure plus ou moins préméditée, dans une architecture qui, inévitablement, comporte une hiérarchisation. Or, s'il y a une chose au monde qui devrait bien échapper à toute hiérarchisation, ce sont bien les vies humaines et les destins individuels. Les stéréotypes, mes chers stéréotypes, sont, eux, interchangeables, tout en laissant apparaître, de par même leur simplification insupportable, une autre vérité, une autre expérience, un autre destin. En d'autres mots, si on veut dénoncer les préjugés, les clichés, les lieux communs, il faut se placer au cœur de ces lieux communs, au cœur des discours ambiants, au cœur des idioties de toutes sortes. C'est du moins ce que je crois et que j'ai essayé de faire dans Européana et Instant Propice. Pour rendre compte de la pluralité des vérités humaines et donc être en mesure de lire et éventuellement de comprendre l'histoire, il faudrait pouvoir présenter les choses de façon éclatée, dispersée, non hiérarchisée, de façon en quelque sorte complètement horizontale. Il faudrait aussi rendre les éléments qui constituent un texte, un récit, il faudrait les rendre mobiles, fuyants, se dérobant à tout instant. Vérité d'une époque que l'on retrouve dans sa langue, dans la description de l'événement, ou plus exactement dans la narration que l'on en fait et dans les modalités de représentation que l'on met en œuvre, tas de sable virtuel de la réalité qui ne prend corps et sens que par le pâté que constitue le texte. La littérature, selon Ourennik, est essentiellement mise en forme d'une réalité fuyante, éclatée, dispersée, et la prégnance textuelle du stéréotype participe, dans un même temps, du rappel d'une illusion constituée et de son démontage. Il est difficile de ne pas penser ici à l'épisode de la biographie du duc d'Angoulême, dans lequel Bouvard et Pécuchet font l'épreuve de cette réalité labile, instable, que la forme fragmentée, éclatée du récit restitue. Dans la mise en scène des processus de l'écriture historiographique, l'épisode du chapitre 4 donne à voir la mouvance du récit historique, qui, ajoutée à l'incertitude factuelle, participe d'une crise de la vérité. Sans dénier à l'histoire sa légitimité et sa force épistémique, Bouvard et Pécuchet en bornent les frontières et en relativisent la portée. Ce que la fiction romanesque donne à lire, dans les atermoiements et les renoncements bouvardo-pécuchetiens, c'est la limite du discours historique. Incapable d'atteindre le vrai, repoussé hors des limites du disciple, l'historiographie impose l'autorité sous couvert de causalité. Échec théorique donc, mais réussite esthétique. Ou dans l'ambiguïté de cette falsification assumée que constitue l'intégration narrative d'une logique démystifiée, proposition d'une alternative d'ordre poétique. L'épisode de la biographie du duc d'Angoulême met en scène, dans sa fragmentation même et la discontinuité de son écriture, la faillite d'une histoire cohérente et restauratrice d'ordre, mais accueille progressivement une restitution du réel dans son hétérogénéité et sa complexité. Il y a quelque chose de cet ordre dans cette chambre d'écho qu'est Européana, caisse de résonance où circulent et s'affrontent les voix concurrentes et pourtant semblables des discours prégnants. La restitution de la rhétorique et de la syntaxe d'une époque, en l'occurrence le XXe siècle, est ce procédé par lequel Patrick Ourennik fabrique, c'est-à-dire restitue et expose, la réalité. L'idée de ce livre, explique Ourennik pour Européana, a été de concevoir le XXe siècle non pas comme un thème ou une thématique, mais comme une figure littéraire. Je m'étais demandé s'il était possible de mettre en scène un laps de temps donné sans avoir recours au schéma habituel. Un récit plus ou moins intimiste ou pour le moins individualisé. Qui dit pas de personnage, dit si possible pas de narrateur non plus. Il m'a semblé que c'était possible, à condition que la langue, que le langage, que le discours eux-mêmes deviennent leur propre narrateur. De ce point de vue, il y a trois narrateurs dans ce livre. Puisque, phase suivante, je m'étais posé la question de savoir quels seraient éventuellement les trois mots qui reflèteraient, exprimeraient le mieux possible ce laps de temps donné. J'avais pensé tout d'abord au chaos, mais je l'ai aussitôt rejeté, le chaos étant propre à l'histoire dans son ensemble et n'étant pas spécifique au XXe siècle. Mais ce mot m'a amené à un autre qui m'a paru tout à fait adapté, à savoir la précipitation, cette précipitation que j'évoquais précédemment. Je crois que ce siècle a été en effet le plus précipité que d'autres, ce qui pour moi voulait dire « essayons d'écrire un texte précipité ». Second mot-clé, l'infantilisme, qui est une autre particularité, me semble-t-il, du XXe siècle, avec tout ce que ça implique, depuis cette image romantico-marchande de la juvénilité, jusqu'au refus d'assumer ses faits et gestes. Pour moi, cela voulait dire « essayons d'écrire un texte enfantin », un texte qui aurait pu être finalement dicté par un gamin récitant sa leçon au tableau, ou par un idiot du village. Et puis, troisièmement, ce texte a été scientiste. Introduisons donc un vocabulaire vaguement scientiste, si possible, dans toute sa vacuité. Ce sont ces éléments-là qui ont donné au livre sa forme et son contenu. Ce sont ces éléments-là qui en sont, non les personnages, mais les trois narrateurs. La forte discursivité du texte explique sans doute son succès théâtral. Avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de pertinence interprétative, le récit de parole d'Ourennik, ou essai, ou précis d'histoire, c'est le sous-titre tchèque de l'ouvrage, les critiques hésitent sur la catégorisation d'un texte difficilement réductible à un genre. Le récit de parole a été à de nombreuses reprises adapté à la scène. On compte 10 adaptations en France, d'autres en Belgique, Suisse, aux Pays-Bas et en République tchèque. Fausse bonne idée peut-être, car si le texte se donne à lire comme un collage, un assemblage aléatoire de discours, il joue essentiellement sur l'indétermination énonciative et l'indifférenciation. Comment, dans ce cas, proposer sans être dans le contresens une incarnation dans un ou plusieurs personnages, incarnation qui suppose une caractérisation, partant une typisation. La démarche semble aller à l'encontre de l'effet d'indistinction et de nivellement que produit l'écriture d'Ourednik. Car si c'est le discours scientiste, dans toute sa vacuité, qu'il nomme et identifie comme cible programmatique, ou dans une reconstruction a posteriori de sa démarche d'écriture, voire Raymond Roussel, c'est l'ensemble des discours constitués et contraints qu'il brocarde, en en soulignant la diffusion et le pouvoir contaminant. C'est encore la parole gelée de la bêtise, aussi invasive qu'oppressive, qui est au cœur d'Instant propice 1855, le second ouvrage traduit en français, dont je voudrais dire également quelques mots. Il s'agit du récit polymorphe, mi-lettre, mi-journal de bord, d'une utopie libertaire qui s'épuise en parlotte. Il y a de la réduction caricaturale, burlesque, dans les deux ouvrages. Réduction de l'histoire à une collection de dates et de raccourcis de discours reçus. Réduction de l'idéal égalitaire à une nef des fous où toutes les opinions se valent. Mais si toutes les opinions se valent, selon quoi décidera-t-on ? S'interroge l'ingénu colon au moment d'accoster en terre brésilienne. Et où, conséquemment, on ne parvient pas à s'entendre sur le partage équitable de l'argent, des denrées, des fruits du travail, des cochons, du tabac, des femmes. Génériquement, Européana et Instant propice sont deux objets dissemblables. L'un, inclassable, est une forme discursive hybride. L'autre, d'une facture plus académique, se réfère à des genres établis et reconnaissables. La première partie du récit est une longue lettre, datée de mars 1902, adressée par le promoteur de la colonie à la dame désormais très mûre de ses pensées. La seconde partie est le journal intime d'un colon italien, Bruno, qui se décline en deux temps. Premier temps, récit du voyage et plus particulièrement de la traversée en bateau depuis le Havre jusqu'à Rio. La période couverte est de janvier à avril 1855. Second temps, extrait du journal daté du 15 octobre 1855, forme de bilan des 6 mois d'existence de la colonie utopiquement baptisée Fraternité. Mais dans les deux formes distinctes que les récits assument, le même projet d'écriture, la restitution de la vérité d'une époque par l'adoption de sa langue spécifique qui seule la rend audible. Dans le cas d'Instant propice, il s'agit du 19e siècle et la mise en récit de sa langue passe pour Ourednik par le choix de certaines conventions génériques. Je cite « J'ai essayé de faire en sorte que la forme choisie, le genre choisi, lettres et journal, reflète le mieux possible cette période qu'est le 19e siècle. Le thème lui-même, à savoir la naissance et la disparition des communautés, en Amérique du Nord surtout, en Amérique du Sud mais également en Europe, en Afrique du Nord, etc., traite d'un phénomène qui a pris une grande ampleur dans la seconde moitié du 19e siècle. On peut discuter la représentativité d'une telle inscription générique et le choix emblématique de l'épistolaire et du journal. Le ton, quant à lui, est celui de la satire, quelque part entre Swift, Voltaire ou Diderot, et tant pis pour le 19e siècle, et la construction narrative, celle de la répétition, qui abîme dans le piétinement diégétique l'idée même d'un élan progressiste. Et tant pis pour Saint-Simon, Fourier et autres cabets. La lettre inaugurale, prise en charge par l'anonyme philosophe morfondu, théoricien de l'utopie, et que le colon enthousiaste, narrateur de la seconde partie du récit, appelle « frère aîné », à la manière d'un Candide qui aurait lu Orwell, la lettre inaugurale, rétrospective, signe déjà l'échec de la colonie que répliquera la seconde partie du récit. Si le philosophe peut affirmer « mon œuvre, c'est ma vie », force est de constater que le roman qu'il en fait pour répondre aux caprices de sa dame, qui se prénomme Julie, et l'on pense à Rousseau, s'engage sous de noirs auspices. Je cite la fin de la première partie du récit. « Le monde est pure folie, l'homme né dans les fers, un monde de haine et de désolation, cherchant dans le froid l'entrée de son pourrissoir. Peu souhaite être des meurtriers, peu refuse de tuer. Sans fin, le mal hante l'histoire, fourgon sur chemin boueux. Je ne sais si la compréhension du mal rend l'homme plus clairvoyant. Je ne sais si cela le rend plus fort dans l'attente de la mort. Je ne sais qu'une chose. J'attends la mienne sereinement et sans remords. » Ainsi conclut-il avant de laisser la parole à un autre. Commence alors le récit de l'entreprise coloniale qui, d'inventaire du matériel indispensable aux colons, en liste de personnages, les noms des 55 colons italiens, passe en revue les objets, les lieux approchés ou investis et les dires du drame. car d'action, il n'est point ou peu question. Le journal de bord de l'ingénu colon italien, sorte d'anti-héros naïf dont l'adhésion au projet n'a d'égal que le scrupule maniaque de greffier, restitue discussions et débats, proclamations et sentences, déclarations de principes et résultats des votes incessants qui jalonnent le quotidien maritime des colons embarqués à bord de la Croix du Sud. Rien n'y échappe, pas même les « ah bon » des uns ou les « qu'est-ce que je vous disais » des autres, qui insèrent, sans démarcation, dans le récit du narrateur, la parole des personnages au style direct. D'incompréhension linguistique, et dans l'instant propice, il est souvent question de traduction et d'incommunicabilité entre les différentes langues et nationalités représentées, allemand, italien, français, slave, américain, cohabitent, sans que les préjugés des uns et des autres sur les uns et les autres ne parviennent jamais à s'estomper. D'incompréhension linguistique en ignorance se manifeste. En fait, je ne sais pas grand-chose de l'anarchie, avoue le narrateur au terme de son journal de bord. Les différends et les tensions se multiplient sans que les motions et les statuts votés résolvent quoi que ce soit. Je cite le journal de bord à la date du 20 mars. La réunion s'est prolongée tard dans la nuit, mais finalement, nous avons voté la plupart des questions. Penaud, qui avait été, paraît-il, stagiaire dans une étude d'avocat, a fait le procès-verbal des notes. Présents, environ 130, enfants compris. Élaboration d'une nouvelle liste de colons. Pour, 87. Contre, 8. Abstention, environ 40. Voté. Remise du pécule personnel dans la caisse commune. Pour, 55. Contre, 42. Abstention, 30 à 40. Voté. Élaboration d'une déclaration sur l'honneur et signature de cette dernière. Pour, 65. Contre, 32. Abstention, environ 40. Voté. En fait, la déclaration sur l'honneur, c'est l'engagement que prennent les colons à mettre leur argent dans la caisse commune et à rejoindre la colonie. Pourtant, dès le 24 mars, Bruno rapporte « La déclaration sur l'honneur n'est toujours pas prête. Les égalitaristes essaient de la formuler de façon que le plus grand nombre la signe. Dessio a déclaré d'entrée de jeu qu'il ne la signera pas, parce qu'une déclaration sur l'honneur constitue toujours le premier pas vers le renoncement à la liberté et au jugement personnel, et qu'il appelle tous les vrais anarchistes à refuser de signer. Beaucoup d'Italiens sont de son avis, même ceux qui avaient d'abord envisagé de signer. Je pense que de toute façon, la question de la signature ne se posera pas. Les gens en ont assez de siéger, de débattre, de statuts et autres. Ils se réjouissent que la traversée touche à sa fin. Tout le monde passe son temps à arpenter le pont, à s'arroser, à chanter et à blaguer. Désintérêt, renoncement, désinvolture du plus grand nombre, les gens en ont assez, tout le monde passe son temps à blaguer. Et par ailleurs, résistance coriace et des antagonismes. 3 mois continus de palabres n'ont en rien atténué les oppositions massives entre et à l'intérieur même des groupes, chacun campant sur des positions aussi catégoriques qu'irréconciliables. Ainsi, alors qu'ils viennent de débarquer à Rio et s'apprêtent à rejoindre la colonie, tout au moins ceux qui ne se sont pas rétractés et n'ont pas demandé à reprendre l'argent qu'ils avaient déposé entre-temps, je cite. Devant le palais, Zéphirino a prononcé un discours solennel pour dire que les colons étaient des gens épris de liberté qui s'étaient évadés des geôles de la civilisation pour rendre sa dignité au travail humain et instaurer au Brésil le règne de la libération de l'homme. Le soir, à l'auberge, il a fait circuler le texte de son discours. Dessio a fait des remarques narquoises en demandant ce qu'était ce règne de la libération de l'homme et s'il serait instauré par Zéphirino. J'ai demandé à Giacomo ce qu'il pense de la liberté et quand elle pourrait s'instaurer. Il m'a dit qu'à son avis, elle s'instaurera quand la science aura découvert toutes les lois de la nature. Quand on connaîtra toutes les lois de la nature, il n'y aura plus besoin d'en imposer d'autres, qui sont toujours en contradiction avec celles de la nature, parce qu'elles ne partent pas des besoins authentiques de l'homme. À son avis, le problème de la liberté sera alors réglé. Plus personne ne pourra prétendre que la vie en société exige une hiérarchie, un pouvoir ou une direction politique. Tout cela est despotique, parce que c'est imposé par les hommes et non par la nature. L'homme est soumis aux lois naturelles, et basta. On se croirait à Chavignoles, au cœur des joutes verbales entre notables, où le « allons messieurs en séance », les talons tournés du docteur Vaucorbeil, s'enfonçant sous la hêtrée, où l'air de bravade de l'abbé Geoffroy pouvait congédier sans appel ou faire tourner court les allégations de Bouvard et Pécuchet. Point final de la discussion, qui est aussi une fin de non-recevoir, le « il suffit italien », typisation tardive et stéréotypée du discours de Giacomo, tout comme le « nein, nein » écrit en phonétique, a pu précédemment caractériser les discours des Allemands. Le point final de la discussion ne met bien évidemment pas fin aux disputes. La question de la liberté, toujours débattue, jamais tranchée, fait un retour constant dans les discours, de façon emblématique peut-être, mais avec le même traitement textuel que la question du peuplement de la colonie, les nègres doivent-ils ou ne doivent-ils pas être invités à intégrer la colonie pour fonder un homme nouveau, un monde nouveau, où la question des races ne comptera pas, car de notre côté, on voit bien que les nègres ne se foulent pas au travail. Et c'est tous les exemples, c'est la première série d'exemples que vous avez dans l'exemplier, c'est tout le débat hein, qui a trait à l'intégration ou pas des nègres dans la colonie et les votes qui s'en suivent. Autre question non tranchée, la question du partage des vivres, de la répartition du travail, de la propriété des biens et de celle des femmes. Quant aux femmes, elles se garderont seules, affirme Zeffirino. Mais la plupart souffrent d'anciens préjugés et refusent la polyandrie. Ou encore, les femmes sont à tout le monde, même aux Allemands et aux Portugais. Mais la plupart d'entre elles ne veulent coucher qu'avec un homme parce qu'elles jouissent de l'égalité des droits. Puis, d'un seul coup, Florinda s'est mise à coucher en même temps avec au moins 6 ou 7 colons. Certains hommes sont perplexes. Ils disent que 2 ou 3 partenaires, c'est normal, mais 7, ça fait trop. Instant propice est comme Européana un récit marqué par la redite. Répétition des mêmes discours qui reviennent plusieurs fois, ou reprise des mêmes éléments diégétiques avec variation du traitement narratif. La répétition qui referme le récit, et qui est aussi un amuissement progressif, en fait le texte propose, dans sa partie finale, 4 récits datés du 15 octobre 1855, chacun étant plus bref et d'une tonalité plus désespérée que le précédent. La répétition qui referme le récit évoque à 4 reprises la même période, les 6 mois que le narrateur a passé à la colonie, et les mêmes faits, dont elle offre 4 appréhensions divergentes, complémentaires et ou antagonistes, toutes prises en charge par le narrateur initial de cette seconde partie du récit, le narrateur Bruno. Version 1, 18 pages, qui consciencieusement répertorie les 38 maisons de la colonie, les 170 personnes parmi lesquelles les 58 rescapés de la Croix du Sud qui la peuplent, les 25 élèves de l'école âgés de 5 à 12 ans, les 2000 reis de dette que les colons ont contractés auprès des fournisseurs et des marchands et autres 250 ou 100 grammes de viande auxquels chacun a droit en fonction de son âge. À côté des titres des ouvrages que constitue la bibliothèque et des devises inscrites sur les murs de l'école, « Tous les hommes sont frères, l'égalité dans la joie, pas dans la peine, l'union fait la force, un pour tous, tous pour un, Dieu n'existe pas, l'homme si », se lisent en contrepoint la désertion progressive du lieu, les humeurs bilieuses et les disputes incessantes. « Les gens sont grincheux », je cite le narrateur. « Les gens sont grincheux, ils se disputent plus que sur le bateau, car nous avons atteint notre but. » Disputes incessantes jusqu'à la découverte de cadavres qui finit d'attiser suspicion et défiance. Version 2, 14 pages, qui répète les mêmes phrases où on propose des variantes dans un effet de raccourci et de montage. Les données chiffrées changent, les devises inscrites sur les murs de l'école aussi. Fais ce que bon te semble, tout à tous, rien à un seul, l'égalité dans la liberté, pas dans l'esclavage, sans liberté, pas de discipline, et l'humanité se dirige vers la prospérité, la paix, la libération de la femme, l'anarchie et l'harmonie. La colonie s'arme, et l'on institue un tribunal pour juger et condamner à mort un voleur qui s'est enfui avec 500 reis de la caisse commune. Version 3. 6 pages où tensions et conflits sont régulés par la Constitution et une liste des devoirs du colon éditée peu après l'arrivée à la colonie. Le narrateur, qui ici rapporte moins les discours d'autrui qu'il en assume le discours officiel, expose procédures, devoirs, interdictions, avertissements et blâmes du second degré, qui rythme et planifie, dans un idéal de transparence, tout est public, l'existence libre de chacun. Je cite « Il est indispensable que l'ordre règne dans la colonie, sinon nous ne deviendrons pas l'avant-garde de la société nouvelle. L'anarchie n'est pas l'arbitraire et la liberté doit répondre de ce qui la rend possible. Par ailleurs, la liberté individuelle est provisoirement suspendue parce qu'il est apparu que les gens ne sont pas encore mûrs, mais elle demeure l'objectif car elle est la condition première d'un développement harmonieux. » Version 4 et dernière, et c'est le dernier exemple que je vous ai donné dans l'exemplier, donc c'est la toute fin du récit, datée du 15 octobre. Version 4 et dernière, 2 pages. Le récit s'attarde sur l'évocation d'un rêve du narrateur où sa mère morte lui désigne une tombe, alors que les 6 mois d'existence à la colonie sont relégués en fin de séquence, réduits à la portion congrue de quelques lignes inquiétantes. 15 octobre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit le 15 octobre. Ma mère est née ce même jour. J'ai cessé de tenir mon journal quand nous sommes arrivés à la colonie. Je ne sais pas par où commencer. Elle est née à Casalvieri, près de Rome. Il y a quelques semaines, j'ai rêvé qu'elle était morte. Elle était couchée sur un lit, en robe noire, les mains jointes, des bougies brûlées autour et 3 vieilles femmes que je ne connaissais pas étaient assises sur des chaises. Je me tenais près du lit quand tout à coup, elle a ouvert les paupières et posé un doigt sur ses lèvres. Puis elle s'est levée et m'a fait signe de la suivre. Les pleureuses étaient assises sur leurs chaises. Elles chuchotaient entre elles et ne se rendaient compte de rien. Ma mère est sortie de la maison. Je voulais la suivre, mais elle me précédait toujours de 6 ou 7 pas, même lorsque j'accélérais et tentais de la rejoindre. Plus tard, on s'est retrouvés au cimetière. Ma mère a fait halte, je me suis approchée d'elle, mais sans pouvoir la toucher. Elle a désigné une tombe et dit « Voilà où j'habite ». Puis elle en a désigné une autre et dit « Et voilà où tu habites. À présent, nous nous verrons plus souvent ». J'ai voulu la prendre par la main, mais je n'y parvenais pas. Puis elle a commencé à s'enfoncer lentement en terre, sans avoir pourtant l'air effrayé ni surpris. Elle me regardait d'un air sérieux, peut-être même sévère, en s'enfonçant dans la terre, et alors que seule sa tête dépassait encore, elle a fermé les yeux et disparu en entier. C'est notre 6e mois ici. Dessio est revenu à la colonie. Il avait apporté une hache et voulait abattre le mât de la cour, en haut duquel flotte le drapeau rouge, noir et rouge. Il est venu avec une douzaine d'anciens colons et quelques Indiens. L'un d'eux agitait une machette et riait sans arrêt. Presque tous étaient ivres. L'utopie sociétale de fraternité s'est effondrée dans les affrontements entre individualisme et intérêt collectif dont les colons n'ont jamais réussi à borner les contours. Avatar tropical de la pensée phalanstérienne et du bonheur égalitaire et communautaire, la colonie brésilienne ne parvient pas à se construire, si ce n'est sur la suspension de la liberté individuelle, pour laquelle les gens ne sont pas encore mûrs, sur la violence et l'inconscience. Hache et machette en signe de retour, presque tous étaient ivres en guise de clausule. De l'inventaire scrupuleux du monde colonial, rien ne persiste que la tristesse et la désillusion, et le plus idéaliste de tous, Dessio, s'est mué en dieu du carnage. Dans la songerie morbide de Bruno, tout emplie de pleureuses et de visions spectrales, se dessine l'apaisement d'une fin prochaine, alors que le rire dément ou abêti de l'Indien et la soûlerie généralisée absorbent les discours articulés et les fumeuses théories dont la litanie s'est finalement tue. Mort-vivant désigné, voilà où tu habites. Bruno n'a plus qu'à se taire, à son tour, et l'affaire fraternité à s'ensevelir dans les replis de la mémoire ou dans les vapeurs d'alcool. Il y a, dans toute énumération, deux tentations contradictoires. La première est de tout recenser. La seconde, d'oublier tout de même quelque chose. La première voudrait clôturer définitivement la question, la seconde la laisser ouverte. Entre l'exhaustif et l'inachevé, l'énumération me semble ainsi être, avant toute pensée et avant tout classement, la marque même de ce besoin de nommer et de réunir sans lequel le monde, la vie, resterait pour nous sans repère. Il y a des choses différentes qui sont pourtant un peu pareilles. On peut les assembler dans des séries à l'intérieur desquelles il sera possible de les distinguer. Telles sont les joies ineffables de l'énumération qu'évoque Georges Perec dans Pensée classée. Joie ineffable, certes, si l'on considère le versant euphorique de l'alternative et la tentation de la totalité qu'elle recèle. Joie en demi-teinte, pourtant, si l'on s'attache à l'infini abyssal sur lequel elle ouvre. Patrick Ourednik a cette tentation de l'exhaustif et cette manie encyclopédico-taxinomique. Il avoue une passion pour les listes, les catalogues et les nomenclatures, des dictionnaires au bottin, qui le réjouit par son implacable ordonnancement alphabétique et la différenciation insensible qui s'opère d'un patronyme à l'autre. Ourednik a cette manie taxinomique qui taraude également l'écriture flaubertienne. Ses textes sont des compilations, des listes d'objets, de dates, de noms de personnes et de lieux, des successions de faits, des catalogues de discours flottants et de paroles reçues en amer héritage. Parcours à travers l'histoire des 19 et 20e siècles, Européana et Instant Propice en font entendre les voix multiples et dissonantes, réductrices et péremptoires, dogmatiques et assurées. Dans une forme de protestation contre l'effacement des choses dans l'oubli, qui passe par la restitution des discours, Ourednik s'attache à faire le compte des dires d'une époque, qui sont aussi, dans leur certitude arrogante, les dires de toutes les époques. Tentative de fixation non pas des choses, mais des discours, dans leur vacuité et leur solidité terrifiante, Européana et Instant Propice balaient les manifestations de la bêtise humaine en se plaçant en leur sein. Raccourcis de pensées et formules toutes faites qui se succèdent et s'empilent, manifestations idéologiques d'un temps déboulonné par les suivantes, truismes universels dans leurs variantes géographiques et temporelles. Ainsi, et je citerai un dernier texte pour terminer, dans « Ma fille à 5 ans », cette brève histoire du début du XXIe siècle écrite en français, et Ourednik publié dans Le Monde en mai 2009. Je vous livre la fin. Il y a eu la crise aussi, la plus grande crise économique depuis la dernière guerre mondiale, parce que les Américains indigents voulaient s'acheter. La crise a fait émerger de nouvelles expressions que je ne comprends pas. Titrisation, déréalisation des produits dérivés, normes prudentielles. D'autres mots sont devenus vieillis, encore compréhensibles mais sans avenir. Conversation, promenade, amitié. La conversation fut remplacée par l'échange, car il est important que dans un monde globalisé, les gens puissent échanger des idées nouvelles. La promenade par la randonnée, qui demande plus d'efforts et de détermination et s'inscrit ainsi mieux dans le siècle naissant. L'amitié par l'intimité, car seule l'intimité permet de se fondre avec l'autre. De même, on ne dit plus indigent, mais défavorisé. Mais la crise est derrière nous, et les échanges commerciaux se multiplient avec les nouveaux pays membres. Nous achetons des loups aux Slovènes, et ils nous achètent du roquefort, ou autre chose. Près de 3000 brebis ont été tuées l'année dernière par les loups slovènes, disent les éleveurs. C'est la globalisation. C'est également un mot récent. Pendant un temps, il a été en concurrence avec le mot mondialisation, mais le mot globalisation semble l'avoir emporté. J'imagine qu'un jour, d'ici 2 ou 3 ans, ma fille me demandera « Qu'est-ce que c'est la globalisation, papa ?» Je lui répondrai « C'est comme mondialisation, mais en plus globale. » Ou bien je lui répondrai « Ma fille, oh ma fille, tu le sauras bien assez tôt. » Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est tout à fait passionnant et riche. Et je pense que ça a donné à ceux qui n'ont pas regardé Europeana l'envie de, d'ouvrir le livre. Il circule d'ailleurs, hein, je l'ai fait pour ceux qui... Voilà, vous le faites passer, voilà. Merci beaucoup, il y avait beaucoup de choses très intéressantes et tout ce que tu as dit sur, sur l'aspect encyclopédique d'Europeana en écho avec Bouvard et Pécuchet, c'est tout à fait intéressant. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'alternance entre des énoncés de faits et des énoncés de dire, c'est-à-dire « et il disait que ». Et puis, et alors, le stéréotype est vraiment donné à la fois comme quelque chose qui est mis à distance, avec un faux ingénu, on est d'accord, mais en même temps, c'est dans son ambiguïté, c'est-à-dire ces stéréotypes, c'est aussi ce dont se nourrit la mémoire. Et il y a une sorte de mémorial dans ce que tu appelles les apostilles, dans la mémorial du XXe siècle, dans toute son ambivalence, c'est-à-dire ce sont les lieux communs, c'est aussi ce qui fait le ciment de, et puis les procédés de l'absurde, c'est-à-dire mettre sur le même plan syntaxique, tu as très bien défini tout ça, des énoncés qui sont incompatibles les uns avec les autres, enfin c'est le phénomène même du zeugma, c'est-à-dire des énoncés qui ne sont pas sur le même plan sémantique. Donc tout ça, c'était très passionnant. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, des remarques sur ce petit livre ? Et il y a un peu le même phénomène de qu'entraîne Bouvard et Pécuchet. L'effet de monotonie et de lassitude de la liste, de l'énumération. Il y a des moments où on a envie de refermer le livre, on est fatigué de cette... parce que il y a une forme d'étouffement qui est liée, même dans un tout petit livre, au fait qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a pas de césure, il n'y a pas de rythme autre que le rythme du discours qui...
Du discours qui porte et qui se poursuit et qui pourrait se poursuivre indéfiniment. Et dans Instant Propice, même si c'est génériquement très différent, et en particulier toute la première partie qui est vraiment une lettre et dont le ton est aussi différent, la deuxième partie, on retrouve ce même phénomène. C'est-à-dire que il y a bien un narrateur qui rapporte finalement une traversée et puis l'installation à la colonie, mais ce qu'il rapporte, c'est... des données, donc la liste de l'équipement qu'ils vont emporter, la liste des personnes qui sont montées sur le bateau, et puis c'est les discours, donc essentiellement tout ce qui se dit, et avec la même technique qui consiste à mettre sur le même niveau de l'énoncé qui serait de l'énoncé fondamental, et puis l'exclamation, le « a », le « mais ».
Il y a une destruction des énoncés par la... Par la juxtaposition
par l'effet de collage. Voilà. Oui. Et
comme dans Bouvard et Pécuchet, la question de la vérité aussi est mise hors jeu.
Complètement. Et c'est bien ce qui ressort aussi des quatre versions de la même histoire, dans les quatre versions finales d'Instant Propice. Il y a à la fois le retour des mêmes phrases, donc exactement les mêmes énoncés, et puis toutes les données chiffrées ont été modifiées, ce qui était donné comme une inscription, donc véritablement coulé dans le marbre d'un côté, c'est coulé dans le bronze ou gravé dans le marbre, c'est réfuté dans la deuxième version. Donc c'est la question de la vérité qui ne se pose plus, ou de l'unicité de la vérité.
Remarque, oui.
Moi, je voudrais arriver à quelqu'un d'autre, si vous voulez, parce que dans ce que tu disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez proche. Donc, Baudelaire qui dit dans le bas de la vie moderne qu'il faut chercher faire œuvre, ce qu'il y a de particulier dans son siècle. Faire œuvre, il faut du transitoire et de l'éternel, et donc la marque du synodienne, c'est le transitoire. Et donc, voilà, c'est ça, ce que tu disais, Paul Bradley qui cherche, et dans le 19e et dans le 20e, ce qui serait le 20e, rappelle ça, et aussi je pense à Baudelaire, Baudelaire admire chez Flaubert, c'est ce qu'il a écrit en 57 dans l'article sur Madame Baudelaire, il admire chez Flaubert cette capacité qu'a Flaubert promis de trouver justement dans son siècle, alors en 57, hein, la banalité dramatisée qu'a permis Baudelaire, et Baudelaire, l'héroïne, finalement, du 19e, le dandy, même, hein, ici.
Ouais.
Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez. Là aussi, c'est comparable, pas seulement Flaubert, mais aussi Baudelaire, et cette idée de trouver finalement quelque chose qui soit la marque du siècle,
ouais.
Et qui, second problème, donner forme à cette marque du siècle. Et donc la forme que Baudelaire voit chez Flaubert avec Bovary, c'est pas seulement la pensée de Bovary, mais la forme qu'il voit, c'est le drame, l'héroïsation. Et donc Rémy, là par contre, c'est vraiment tout à fait
quelque chose.
Ouais. Je pensais encore le dernier. C'est T.S. Eliot, The Wasteland, qui est aussi un collage évidemment culturel, on va dire. Et là aussi, cette idée que la guerre de 14 finit avec la civilisation, ou du moins qu'elle est en débris, que c'est devenu une terre gaste. Et là, Eliot rassemble aussi, pas des lieux communs, puisque ce sont des extraits de toute la culture occidentale, ça parle au sanskrit même, enfin bref. Mais il donne une forme là aussi, qui n'est pas de l'héroïsation humaine. Qui est justement qui est mis du grade,
ouais.
Possible rédemption par le lecteur. Voilà, c'est un autre piste.
D'intertextualité, oui. Ouais. Ouais. Des effets d'écho. Ouais. En fait, quand j'ai rencontré Patrick Orennik, alors ça fait plusieurs fois que je le rencontre, hein. Je l'avais rencontré la première fois en Italie, parce que c'était à l'occasion de la traduction italienne d'Europeana. Et c'est d'ailleurs dans la traduction italienne que j'ai lu aussi le premier texte qui est une réécriture de Je me souviens de Pérec. Hein. Donc il y a des textes qui sont traduits en italien mais qui ne sont pas traduits en français. Le dernier roman de Patrick Orennik est traduit déjà en anglais et il ne sortira qu'à la rentrée prochaine en France hein, dans la traduction.
Plus tard.
Plus tard. Bon, donc plus tard. Donc quand je l'ai rencontré, moi, quand j'avais lu Europeana, j'avais pensé immédiatement à Bouvard et Bécuchet. Et ce qu'il me dit, lui, c'est qu'effectivement, mais ce n'est pas une reconnaissance, ce n'est pas un lien immédiat. Lui, il se rattache davantage à Queneau ou à Pérec, qui se souviennent aussi de Flaubert. Hein. C'est avec un filtre, hein, un filtre 20e avec un filtre contemporain en intermédiaire. Donc voilà, il me disait qu'il y avait des rapprochements qu'on faisait de son travail avec d'autres textes qu'il trouvait plus intéressants que d'autres. Donc je suppose que là, je pense que ça, Baudelaire ou Eliot, je pense que ça pourrait l'intéresser.
Je me demandais s'il n'y avait pas une autre tradition qui était la tradition de une littérature d'Europe centrale, de satire. Et aussi, oui. L'expression qui me venait en lisant Europeana, c'était la langue de bois, qui est une expression qui, en français, d'après ce que j'ai lu est introduit en français par la Pologne. C'est une expression russe traduite en polonais et qui arrive en France après, au moment de Solidarność et cette langue de bois qui désigne en quelque sorte au départ la langue des totalitarismes, d'une certaine manière, elle est présente dans la référence au langage communiste, au communisme, ça revient, et souvent dans quelque chose qui pourrait être justement mis en question, l'association dans les langages du totalitarisme, du nazisme et du communisme. C'est souvent mis sur le même plan. Alors, il y a vraiment... Enfin, il me semble qu'il y a cette tradition de...
Aussi, oui. Et le texte qu'il cite, ou en référence volontiers, c'est le soldat Schweik.
Voilà.
De Jacek, oui, bien sûr, qui reste une référence là.
Et qui là est vraiment 20e siècle comme tradition. C'est pas Flaubert.
Non.
C'est une autre tradition satirique qui est tout à fait... pertinente, très 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 incisive, c'est ça que je voulais dire.
Oui, oui. Oui, bien sûr, il y a aussi il écrit en tchèque.
Oui,
donc c'est bien.
Alors, il est possible aussi que pour des tchèques, il y ait des allusions, des références qui soient moins perceptibles pour un lecteur français, qui tire évidemment à travers qui filtre à travers les références qu'il a. Mais.
Peut-être, mais
c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, et avec ce qu'il m'a raconté de la réception critique en Tchéquie de ses ouvrages, c'est que le dernier, donc Classé sans suite, qui se passe à Prague et qui se passe dans la Tchéquie post-communiste, donc il y a un enracinement là géographique et temporel très net de la bêtise, et c'est son pays d'origine, ça a été très mal perçu. Alors que les autres ouvrages, donc les deux premiers, avaient eu un très bon accueil critique et public. Peut-être parce que le degré de généralité ou de généralisation était suffisant pour... C'est toujours l'idée de la bêtise qu'on voit chez l'autre. Et la distanciation est sans doute plus facile, en tout cas est autorisée par le texte, ce que n'autoriserait pas ou autorise moins le dernier.
Il y a une universalisation du XXe siècle,
oui.
comme un XXe siècle mondial, à travers les guerres, à travers... Oui, Loïc Vindels.
Je ne connaissais pas cet auteur, c'est vraiment très intéressant. Mais est-ce que tu serais d'accord moi, ça me fait plus penser en fait au dictionnaire que j'ai reçu qu'à Gouverneur Pécuchet. C'est-à-dire que on a l'impression souvent quand même que la. Pour être bête, pour moi, F2. Et c'est un peu ce qu'illustre Bouvard et Pécuchet. C'est-à-dire que Bouvard et Pécuchet, avec le modèle qu'on peut avoir de Sancho Panza et de Don Quichotte, et qu'on retrouve dans d'autres, comme ça, duos littéraires, même récemment en Allemagne, avec les désapporteurs du monde. Alors que ici, on est plutôt dans la. Et donc, pardon, excusez-moi, lorsqu'on a, dans Bouvard et Pécuchet ou dans d'autres, on est placé en tant que spectateur d'une bêtise qui est en train de se dérouler devant nous. Alors que dans ce texte-là, et j'ai beaucoup aimé quand tu l'as cité, il dit comme un gamin ou un idiot. Et effectivement, c'est lorsque la bêtise est produite par une seule bouche, à travers laquelle parle toutes ces bouches. Et donc, et en plus, directement à nous, ce qui fait qu'on n'est plus en train de voir une bêtise naître d'un dialogue, mais une bêtise se transformer peu à peu, dont on n'arrive plus à démêler l'intelligence. Je pense par exemple à Kuruma ou à la vie en soi de Aja, mais son vrai nom.
Gary?
Merci. de Gary. C'est-à-dire une voix enfantine. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé malheureusement un exemple où ce serait la voix d'un idiot. Mais une voix enfantine, en faisant dégringoler le langage, montre en même temps, enfin, suscite chez le spectateur, chez le lecteur, non pas le sentiment de voir la bêtise s'affoler devant soi, mais une certaine forme d'intelligence qui mine la bêtise. Je ne sais pas si je peux bien comprendre.
Disons que je ne suis pas sûre de partager ta lecture de Bouvard et Pécuchet, parce que de ce que tu dis, il y a une distanciation qui serait facilitée par le dispositif de Bouvard et Pécuchet, c'est ça?
C'est-à-dire que...
Alors que là, on est intégré dedans?
Oui, c'est un peu ça, oui.
Mais moi, cette distanciation, je ne suis pas sûre de l'avoir dans Bouvard et Pécuchet. L'avoir parfois, c'est-à-dire que tu...
Par rapport au dictionnaire des idées reçues, là, vraiment, on est obligé à chaque fois de susciter une bouche. Et donc, moi, j'ai l'impression que Europeana, c'est d'avoir rassemblé... Mais je n'ai pas lu le livre, c'est un peu... mais c'est un peu rassembler en une seule bouche ce que le lecteur fait à la lecture, non pas de la lecture, mais du dictionnaire. C'est-à-dire, lorsqu'on lit le dictionnaire des idées reçues, on a une voix à chaque fois qui est suscitée par la page, ou plusieurs voix, chaque lecteur, même soi-même, mais on entend vraiment la voix. Alors que donc, lorsqu'on voit bien, on doit pouvoir réfléchir, Domaine Bovary, quand on a, même si il y a un problème de chronologie, mais lorsque une idée reçue est intégrée au récit, elle est vraiment... J'ai du mal à... C'est parce que je n'ai pas encore fini de penser cette chose-là, donc je suis très confus. Mais...
Oui, une belle alors.
Une qui est sincère,
sans doute, ou c'est le problème de la narration aussi.
Dans Europeana, c'est vrai que la posture rappelle le dictionnaire des idées reçues, mais l'énonciation est plus proche de Bouvard parce que c'est une énonciation continue. C'est pas la discontinuité du dictionnaire qui fait succéder des énoncés. Il disait que qui rappelle les énoncés contradictoires de Bouvard et Pécuchet. De ce point de vue-là, il y a cette espèce de phénoménologie des discours sur le XXe siècle. C'est ce qui s'est passé au XXe siècle, mais aussi ce qu'on a dit du XXe siècle. Il y a le « on dit », hein, qui est une structure d'énonciation très présente.
Oui, ça, c'est juste aussi.
Oui. Ou alors, tu considères que ça colle les deux ensemble, c'est-à-dire que la postille fonctionnerait comme des éléments du dictionnaire qui seraient intégrés à l'intérieur du corps du texte.
C'est voilà. Ce que tu as dit en entrée, il y a les deux. Puis ouais.
Disons l'imbrication des dispositifs. Mais voilà, dans la mesure où un Pécuchet est inachevé, sur Europeana, on peut dire que les dispositifs énonciatifs ont été imbriqués l'un dans l'autre, parce que là, on a un résultat fini. Sur Bouvard et Pécuchet, on travaille aussi sur... je pense qu'il n'aurait pas intégré les morceaux du dictionnaire des idées reçues dans le corps de la narration, mais c'est une supputation ou des projections, la construction finale.
Bien. Trois remarques, commentaires. Bon, on va peut-être s'arrêter sur ces... Alors, j'ai deux annonces à faire. D'une part, le séminaire la fois prochaine, ça sera donc le 7 mai, on écoutera Elisheva Rosen. Didier Philippot, qui était initialement prévu à renoncer cette année à faire son exposé, parce que pour des raisons personnelles. Et Elisheva Rosen le matin, et sous réserve de confirmation, le samedi 7 mai après-midi, on devrait avoir les comédiens et metteurs en scène du spectacle Bouvard et Pécuchet qui s'est donné au théâtre de Bobigny, qui devraient passer des extraits de leur spectacle avec un commentaire. J'en avais, Jacques Ness et moi-même, vu ce spectacle avec beaucoup d'enthousiasme. C'était une heure de diction du texte, mais avec un découpage et une voix magnifique. Et on voulait interroger les acteurs, dont l'un est le metteur en scène, sur leur choix, et justement sur les effets de voix de Bouvard et Pécuchet qui faisaient entendre dans ce spectacle. Alors c'est à confirmer, normalement ils sont d'accord, mais c'est à confirmer, ça sera le cet après-midi. Et je voulais d'autre part signaler la sortie de l'édition par Jacques Neffs de Salammbô au livre de poche, qui est une très belle édition. Je le ferai circuler la fois prochaine. Et donc je vous invite à aller lire cette édition qui est tout à fait intéressante. Voilà. Alors je vous donne rendez-vous pour le 7 mai. Et merci beaucoup, Florence. Merci.